Je peux vous saluer. Bon, nous allons considérer ce matin le psaume 93, mais on va commencer en lisant en Hébreu chapitre 2. D'accord ? Hébreu chapitre 2. Et bon, je vous rappelle, j'avais deux buts en général pour ce mini-série d'inscription. Et le premier c'était qu'on sera changé, hein, que nos esprits soient illuminés à travers la parole et que nous gagnerons, tiendront une meilleure appréciation pour Dieu et son règne à travers les psaumes. Mais j'avais un deuxième objectif aussi, et ça c'était que vous appreniez ou apprenez à nouveau comment étudier les psaumes. Maintenant, j'espère que vous avez un cadre. Et quand vous lisez les psaumes, vous avez ces idées à l'esprit. Il n'y a qu'un seul livre des psaumes qui est divisé en 5 parties. Il y a une conclusion et il y a une introduction. Et entre l'introduction et la conclusion, on voit deux choses principales. Ce sont quoi ? Ce sont le fait que Dieu veut que nous soyons heureux et saints, mais que notre bonheur et notre sainteté existent sous son règne dans le monde. Il est le roi qui règne sur tout. Et il y a, comme on a vu dans le psaume 2, il y a des personnes qui se révoltent contre le règne de l'Éternel. Et pour nous, ça peut causer des problèmes. Soit parce qu'on voit que les injustes, peut-être, bon, souvent, ils sont plus contents que nous, il semble. Ils ont plus de l'argent, leurs vies sont plus à l'aise, ils sont plus détendus que nous. Et on pense, si notre Dieu règne, pourquoi les choses vont comme ça? Et en fait, ça, c'était des questions qui ont été posées par Job, Abraham, le psaume 73, je pense, et par des milliards de chrétiens tout au long des siècles de l'Église. Mais il y a d'autres choses qui ne sont pas vraiment liées avec les personnes. Des êtres humains. Et par exemple, en Hébreu chapitre 2, c'est un passage très important parce que ça parle du fait que Jésus a pris la nature humaine, la vraie nature humaine. Mais juste avant ça, par exemple, le verset 8, on voit ces mots. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. Ça parle à Jésus, mais au début, c'était sous les pieds d'Adam et Ève et les êtres humains. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Même la nature. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Et ça, c'est vrai, n'est-ce pas? Est-ce que nous contrôlons-nous la nature?
Non.
Non. Si oui, on aura le soleil chaque jour à Paris. Ouais. Mais ça n'arrive pas entre octobre et mars, avril. On ne peut pas contrôler la nature. Et l'une des parties de la nature qui est le plus effrayant, c'est la mer. Bon. Pendant 7 mois, j'ai lu plusieurs articles sur les choses qui sont se passées dans la mer. Par exemple, si je dis le nom Concordia, ça nous communique quoi? Un homme qui est envoyé en prison et un bateau qui coûte des fonds sont énormes qui est dans la mer et des personnes qui sont mortes. J'ai lu aussi que c'était dans la Corée du Sud un bateau qui est descendu dans l'eau. Ça s'appelle ça, on se dit
coulé
dans l'eau. Et il y avait des centaines, 300 étudiants qui ont été tués. Et ils viennent de récupérer les corps. Encore les corps. 300 personnes. Des personnes qui essaient d'échapper à la guerre en Syrie. Ils essaient de traverser la mer dans les bateaux et on voit les photos des personnes et même le petit garçon qui est mort à cause de la mer. Bon, la mer est dangereuse. Même si on pense, oui, on aime passer la journée à la plage, dans la mer. Oui, c'est vrai, mais il faut faire attention. Il faut faire attention. Bon, on va considérer maintenant le psaume 93 qui parle beaucoup de l'eau, la mer, les fleuves. Et il faut dans le contexte, il faut que nous ayons cette idée que la mer, oui, on peut passer une très bonne journée dans la mer, mais quand même, elle est dangereuse. Et la vie est un peu comme la mer. Nous allons lire ensemble le psaume 93. L'Éternel règne. Bon, ça fait partie d'un groupe de psaumes qui sont appelés des psaumes de couronnement. L'Éternel règne. Il est revêtu de majesté. Il est revêtu les saints de force. Aussi le monde est ferme et ne chancelle pas. Ton trône est établi dès les temps anciens. Tu existes toute éternité. Les fleuves élèvent, ô Éternel, les fleuves élèvent leur voix. Les fleuves élèvent leurs ondes retentissantes. Plus que la voix des grandes, des puissantes eaux, des flots impétueux de la mer, l'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée des temps. C'est un son assez court, mais qui communique pas mal de choses. Et on va commencer avec un petit commentaire. C'est un psaume de couronnement qui fait partie d'un groupe de psaumes, le psaume 93 jusqu'au psaume 99. Et ce genre de psaume se focalise sur le règne de Dieu, sur le monde. Ils sont liés par leur contenu plutôt que par leur forme. Et ce qu'on trouve dans ce psaume, il veut faire le contraste entre Dieu et la nature. Et je pense que ça, c'est important pour nous parce que nous pensons souvent les hommes, ils sont puissants, peut-être, ils peuvent faire des choses, mais ils sont limités. On peut contrôler les hommes, on peut les chasser de leur pays, on peut les mettre dans la prison, on peut les tuer. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec la nature? Pas grand-chose. On ne peut pas contrôler la nature. C'est le psaume 93, c'est un psaume de couronnement, ça c'est la catégorie, qui fait partie d'un groupe de psaumes 93 jusqu'au 89. Et ce genre de psaume se focalise sur le règne de Dieu sur le monde. Dieu, l'Éternel règne, ça c'est la première chose qu'il dit. Et ils sont liés par leur contenu plutôt que par leur forme. C'est-à-dire, le regroupement de ces psaumes arrive à cause de leur contenu, de ce qu'ils disent. Ensuite, nous allons considérer leur forme, la forme de ce psaume. D'accord? Est-ce qu'on peut avancer? Ouais? Ok, d'accord. Quelle est la forme de ce psaume? On va considérer le psaume sous trois sections, d'accord? Vous avez noté peut-être comment les sections se divisent. On va commencer avec la première section. Et selon vous, quel verset font partie de la première section? 1 et 2. Ouais. 1 et 2 qui parlent du règne de l'Éternel. Voilà. Je vous ai donné la réponse. Et dans cette section, on voit 4 aspects du règne de l'Éternel. La lettre A, la première section, les versets 1 et 2, qui parlent du règne de l'Éternel. Et dans ces deux versets, on voit 4 aspects du règne de l'Éternel. Quels sont les 4 aspects, selon vous? Son règne est quoi? Éternel. Bon, et bon, ça c'est normal parce qu'il est éternel, donc son règne doit être éternel aussi. Mais oui, son règne est éternel. Et on le voit au verset 2, ton trône est établi des temps anciens, tu existes toute éternité. Un autre aspect de son règne. Son règne est majestueux. Ça veut dire quoi? Bon, on voit, si vous regardez le mot majesté, en hébreu, c'est un mot qui fait référence au fait qu'il est élevé. Vous vous rappelez qu'on a parlé hier de celui qui siège dans les cieux. La hauteur communique l'autorité. Et maintenant, on revient à cette idée. L'Éternel règne, il est revêtu de majesté. C'est-à-dire, quand on voit ce Dieu, on voit qu'il est majestueux, c'est-à-dire qu'il est élevé. Ça communique sa position. Il est élevé. Ça, c'est l'Éternel, il a un règne qui est majestueux, l'Éternel majestueux. Une autre chose, éternel, majestueux,
puissant,
ouais. Et ça vient de quel mot?
Force,
il est saint de force, il est puissant. Quand on considère le règne de l'Éternel, on doit penser son règne est puissant, d'accord? On a l'Éternel qui est majestueux, son règne est majestueux, l'Éternel puissant, l'Éternel, je l'ai dit. Et après, une quatrième chose.
Ferme.
Ferme. Qui ne chancelle pas, qui ne bouge pas. J'ai mis le mot immuable, qui ne change pas, qui ne peut pas changer. Son règne est immuable. Ce n'est pas comme le programme d'éducation en France qui change chaque 5 ans. Ouais. Donc on est arrivé en France, ils ont dit, oui, le mercredi, il ne faut pas que les petits-enfants vont à l'école le mercredi matin parce qu'ils ont besoin d'une journée de repos. Plusieurs années après, non, ça ne va pas. Il faut aller à l'école le mercredi matin. Il faut avoir le NAP, activité périscolaire. Ah, d'accord. Et maintenant, on vient de recevoir l'école. Est-ce que vous pensez que c'est mieux de ne pas aller à l'école le mercredi matin et de laisser tomber le NAP? Oui, non. Ça change chaque 5 ans.
Et ça arrive avec le gouvernement parce que un être humain ne peut pas connaître tout.
On change toujours. Donc, les deux versets nous disent que Dieu règne et son règne est majestueux, puissant, immuable. C'est-à-dire qu'il ne peut pas changer. Et éternel. Pour l'éternité, Dieu règne dans sa majesté et sa puissance et son règne ne change jamais. Même si aujourd'hui, il semble être impuissant, loin de nous, et il n'a pas de majesté, comme tout change. Et ça peut pour vous, en tant qu'une église, être une consolation. Parce que, quand Robert est parti, on peut penser que tout est changé. Oui, beaucoup de choses ont changé. On ne peut pas dire, oh, rien n'est changé. Beaucoup de choses ont changé. Mais l'Éternel et son règne continuent. Et une pensée qui donne beaucoup de consolation, c'est maintenant Robert voit le règne de l'Éternel d'une manière qu'on ne peut pas imaginer. Et pour nous, ça peut nous consoler. Lui, il n'a pas besoin d'être consolé maintenant. Il a ce qu'il voulait. Il peut voir Jésus tête à tête, face à face. Mais ça c'est la première section. La deuxième section se compose de quels versets? 3 et 4. D'accord? 3 et 4. Et on voit le changement, n'est-ce pas? Il commence en parlant de Dieu et son règne, mais tout de suite, il commence à parler des fleuves. Bon, ça c'est bizarre. Pourquoi on parle des fleuves? Les fleuves élèvent au Éternel, les fleuves élèvent leur voix, les fleuves élèvent leurs ondes retentissantes. Plus que la voix des grands, des puissants eaux, des flots impétueux de la mer, l'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Et on dit, ah d'accord, il revient. Il a commencé avec ses pensées. Dieu est élevé et puissant. Mais parfois, dans la vie, et il utilise une image maintenant, c'est comme les fleuves élèvent contre nous. Et nous sommes sous l'eau. Franchement, on gagne l'air et tout de suite, une autre vague vient. Et on pense, on va se noyer. Mais est-ce que vous voyez ce qu'il fait là? Dieu est élevé et puissant. Mais dans nos yeux, les fleuves sont élevés et puissants. Mais il termine le verset 4 avec ces deux idées. L'Éternel est puissant dans les lieux célestes. C'est bon, hein? C'est un auteur qui sait ce qu'il fait ici. Hein? Il connaît son métier. J'aime bien comment il travaille avec les mots. Et d'accord, ça c'est la deuxième section, les versets 3 et 4, qui font la comparaison entre l'Éternel et la majesté de la création. Et ça peut être les nations, mais on va parler de ça un peu plus tard. Parce que, est-ce que vous vous rappelez, dans le psaume 2, pourquoi ce tumulte, et c'est un mot qui est utilisé pour la mer. Et on peut se poser la question, est-ce qu'il pense plutôt à la nature ou aux nations? Bon, ça, c'est une question qu'il faut considérer. Et la dernière section, c'est quel verset?
5.
Qu'en pensez-vous, on comprend? Il y a 5 versets, d'accord, dans le psaume.
La première section, c'est les versets 1 et 2. La deuxième section, ce sont les versets 3 et 4. Et la troisième section, c'est quelle section? C'est quel verset? Le cinquième. Ah! Non, tu es un expert dans la poésie. C'est bien, hein? C'est pas très difficile, parce qu'on voit encore une fois un changement. Hein? Parce qu'il vient, il commence en parlant de la majesté de Dieu. Il est élevé, puissant, éternel, immuable. Mais les fleuves semblent être plus puissants de notre perspective. Mais non, Dieu est puissant dans les lieux célestes. Et on pense qu'il va continuer avec ces deux idées, la puissance et la majesté. Mais ce qu'il dit, c'est que tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison éternelle pour toute la durée des temps. Ça, c'est un changement assez brusque. Et on peut dire, ah, je pensais, hein, avant, je pensais que c'était un auteur qui connaît ce qu'il faisait. Maintenant, hein, ça semble être un peu bizarre, ça ne coupe pas avec le reste. Mais je pense qu'on va voir que c'était en fait un coup de génie, hein, ce qu'il fait ici. Je ne sais pas si je peux le dire, mais je ne sais pas comment dire. Voilà, on a trois sections. La première section parle de l'Éternel et son règne. Deuxième section parle du contraste entre la nature ou les nations et le règne de l'Éternel. Et la cinquième section donne une application de ces vérités. Le fait que Dieu est majestueux et puissant. Et on continue maintenant. C'est la troisième section, le verset 5. Ok, le troisième point. On est tous ensemble? Ok, d'accord. Notez maintenant le contraste principal dans le psaume. Et j'aimais bien, quand j'ai étudié ce psaume, de découvrir qu'il y a un contraste qui est principal. Et on va parler de plusieurs choses ici. Comme j'ai déjà mentionné, le verset 1, le mot « majesté » signifie d'être élevé. D'accord? Donc, si nous pouvons imaginer que nous sommes des Juifs et nous lisons le psaume dans la langue hébraïque, on peut dire peut-être qu'on verra ces mots. L'Éternel règne, l'Éternel est élevé et est revêtu avec ce qui est élevé. D'accord? Ça, c'est le verset 1. Il introduit cette idée d'être élevé. On continue avec le verset 3. Et le verset 3, on trouve plusieurs deux mots qui sont répétés trois fois. Quels sont les deux mots qui sont répétés deux fois? Trois fois. Le fleuve et le verbe élever. Donc, on a déjà vu, pas le même mot, mais un mot qui communique la même idée, d'être élevé. Et maintenant, il parle du fait que les fleuves sont élevés. Et on continue maintenant avec le verset 4. D'accord? Plus que la voix des grands, des puissants eaux, des flots impétueux de la terre, l'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Et le mot puissant, d'accord? C'est un mot en hébreu qui communique d'être élevé. Majestueux. C'est un mot qui est utilisé souvent pour un chef d'un tribu, des nobles. Donc, si on suit maintenant le psaume, il commence avec l'idée, l'Éternel règne, il est revêtu de la majesté
Il est revêtu de cette idée qu'il est élevé. Il est revêtu, il est saint de force. Mais les fleuves, ils élèvent. Bon, Somis, tu viens de dire que Dieu est élevé. D'accord, je l'accepte, mais tu dois dire aussi que les fleuves élèvent, la nature élève. Et ça, c'est une image pour les troubles de la vie. La vie n'est pas facile. Les fleuves élèvent. Et maintenant, j'ai deux choses en contraste. L'Éternel qui est élevé et la nature qui est élevée. Mes problèmes qui sont élevés. La vie qui est élevée contre moi. Mais le verset 4 présente la résolution pour ce contraste. Plus que la voix des grands, des puissantes, des eaux élevées, des flots impétueux et impétueux de la mer, l'Éternel est élevé dans les lieux célestes. Donc, si vous pensez que les troubles de cette vie, les vagues de cette vie sont élevés, ils ne vont pas jusqu'au lieu céleste où Dieu est. Il est plus élevé que les fleuves. D'accord. Et je pense que ça nous donne le contraste principal, le contraste entre la majesté de Dieu et son règne et la majesté de la nature et les problèmes de notre vie, si on utilise l'image. Je pense que tout le monde, nous avons vécu des temps où nos troubles semblent être plus élevés que Dieu. Et on se sentait sous l'eau, sous les vagues, qui vient l'un après l'autre. Jour après jour, pendant les semaines, pendant les mois, et pour certains, pendant les années. Et c'est un lutte de penser que Dieu est plus élevé que les vagues qui sont devant les yeux. Mais on marche par la foi, n'est-ce pas? On marche par la foi. Ça, c'est le troisième point. Le contraste principal dans le psaume, c'est le contraste entre la majesté de l'Éternel et son règne et la majesté de la nature, des nations et les problèmes de nos vies. Le quatrième point, nous allons noter ensemble, comme on a fait hier soir, les répétitions et les parallélismes dans le psaume. On va travailler ensemble ici, c'est un psaume assez court, donc on peut le faire. Quelle est la première répétition dans le psaume 1, le psaume 93, verset 1? Comment? Revêtu, l'idée d'être revêtu, c'est-à-dire, quand on regarde cette personne, est-ce qu'on a raté un truc?
C'est les images ou les parallélismes?
Parallélisme. Bon, est-ce que j'ai mis le 4, notez les répétitions, les parallélismes dans le sens. Et ça, c'est une image. Mais c'est une image qui est répétée. Mais même aujourd'hui, il y a une personne à l'usage où j'habite. Et cette personne doit avoir un appartement rempli des vêtements. Parce que chaque jour, presque chaque jour, et parfois deux fois par jour, il semble que cette personne porte différents vêtements. Et c'est toujours les choses qui sont vraiment à la mode. Et Parce que, et je ne sais pas, je ne connais pas la personne, mais je pense que cette personne veut communiquer quelque chose. Parce que la première chose qu'on observe quand on regarde une personne, ce sont leurs vêtements. Et les vêtements communiquent quelque chose. Si on regarde, si on se croise avec quelqu'un qui porte tous les vêtements qui sont noirs, ils sont vraiment tatoués. Ils portent le maquillage qui est foncé au moins. Le violet très très foncé ou le noir. Ça communique quoi? C'est une personne qui est
gothique.
Hein? Bah, on voit tout de suite. Mais si on trouve quelqu'un qui porte un costume qui doit coûter 2 millions, avec une cravate qui doit coûter plusieurs centaines d'euros. Et des chaussures, on peut pas estimer. Hein. Ça doit coûter, on ne sait pas. Ça communique d'autres choses. J'ai l'argent, moi, je suis important, et je suis puissant. Ça communique. Si la personne porte le bleu avec un badge, et le mot gendarmerie, ça communique d'autres choses. Hein? Nos vêtements communiquent des choses. Dieu est revêtu de majesté, de force. Ça communique les élèves. Il répète. C'est quoi le deuxième répétition? C'est cette idée d'être. D'avoir la majesté et la force. Les deux choses vont ensemble. Il est élevé, donc il a la puissance, la force, l'autorité. On continue avec cette répétition. Le monde est ferme et ne chancelle pas. Et pourquoi il fait cette transition? Dieu est majestueux et maintenant je vais parler de la terre. Et je pense que le mot « ainsi » c'est un mot qui fait le lien entre les idées, n'est-ce pas? On peut dire, c'est pourquoi, je pense. C'est pourquoi le monde est ferme et le monde est ferme et le monde ne chancelle pas. Le fait que Dieu est puissant, élevé et sainte force, c'est à cause de ça, en raison de ça, grâce à ça, que le monde est ferme et ne chancelle pas. Donc, et c'est ce parti du verset 1 qui me fait penser que Dieu parle plutôt de la nature et pas aux nations. Ça c'est mon interprétation de ces versets. Au verset 1, ça c'est la lettre A. On a ces deux choses, la répétition de cette idée d'être revêtu de majesté, revêtu de sainte force. J'ai mis les deux ensemble. Et au verset 1 aussi, on a ces parallélismes entre ferme et ne chancelle pas. Le P signifie parallélisme. D'accord? On va considérer maintenant le verset 2, la lettre B. Et dans le verset 2, on voit le trône qui est établi et le fait que tu existes. Ils sont coextensifs, les deux. Il n'y avait pas un temps où Dieu existait qui n'était pas le roi. Son trône est établi dès le commencement et tu existes de toute éternité. Et donc, les temps anciens et toute éternité, ça c'est le parallélisme aussi, la répétition d'une idée. Ça c'est pas très difficile. Et on continue avec la lettre C. Au verset 3, on a, bon, c'est assez facile, mais il répète. Les fleuves, les fleuves, les fleuves. ça monte un peu comme une vague, hein?
Parce qu'il vient, il vient un peu plus loin, il vient un peu plus loin.
On est allé à la plage. Et il répète trois fois cette idée de élève, élève leur voix, élève leurs ondes qui sont brisantes. Ça, c'est l'idée derrière ce mot retentissant. Ce sont les vagues qui crasent, cassent, qui brisent quelque chose. Ensemble ici. Je peux continuer? Ça c'est trop rapide. D'accord. Et maintenant on va regarder les versets suivants, le verset 4. On a cette idée de puissant, impétueux, puissant, qui sont des répétitions de cette idée d'être élevé. Et on voit encore une fois. Les lieux, c'est l'est. Les élevés, c'est la même idée qui est répétée. Et on voit au verset 5, ils reviennent à cette idée de l'éternité. Il a introduit cette idée au verset 1, et il revient au verset 5 en disant pour toute la durée des temps. Ouais. Bon, de lettre D au verset 4, on a le grand, le puissant eaux, les brisants flots impétueux, c'est-à-dire cette idée de l'eau qui est énorme, qui fait, qui écrase, qui casse. Entre les versets, la lettre E, entre les versets 1 et 5, on a... entre les versets 1 et 2, on a cette répétition du fait que l'Éternel règne et il commence à parler du trône. Donc, ça, c'est une répétition d'une idée. Ça, c'est la lettre E. C'est pas ici sur le PowerPoint. La lettre E, au verset 1 et 2, on a... le parallélisme de ce fait que Dieu règne et il parle de son trône. On parle d'un trône parce que c'est une chaise d'un roi qui règne. C'est une chaise d'un roi. Non, c'est toujours le parallélisme. Mais c'est des images, oui. Ce sont des images. Mais maintenant, je veux qu'on observe qu'il y a des parallélismes entre les versets qui sont répétés. Parce qu'il veut mettre l'accent sur le fait qu'il règne. Ça, c'est le E. La lettre F, au verset 2 et 5, on a la répétition de cette idée d'éternité. Dès les temps anciens, de toute éternité et pour toute la durée des temps. C'est comme il veut dire, je ne veux pas que vous ratiez cette idée. Dieu règne éternellement. D'accord? Bon, si vous la ratez au verset 1, je vais répéter pour vous ici au verset 5. Et le verset 1, 3 et 5, la lettre J. On a cette idée de l'éternel. On parle de l'éternel. Et ça, c'est important parce qu'il parle de qui. Ça, c'est l'une de nos questions importantes. Il parle de qui, à qui parle, et il parle de l'éternel. Il est le sujet principal du psaume 93. Voilà, on est ensemble. On avance un peu rapidement. Parce que moi, je suis fatigué. Et vous aussi.
Non,
pas du tout. D'accord. Bon, ceux qui ont plus de 10 ans sont fatigués. Maintenant, on va considérer quelques images.
Bon,
il y a ce psaume est rempli des images. Hein. Et vous pouvez prendre le temps après pour considérer les images. Mais on a cette image d'être au verset 1, revêtu de majesté, saint de force. On a déjà parlé de ça un peu, mais ça veut dire quoi? Pourquoi? Parce que je pense que personne ici pense que Dieu porte des vêtements qui sont fabriqués d'un tissu qui s'appelle majesté. C'est pas comme ça. Ça communique, c'est une image qui communique quelque chose d'autre. Le fait qu'il est entièrement majestueux. Et quand on voit Dieu, si on peut voir Dieu, on verra la majesté et la force. Ça, c'est l'image au verset 1, revêtu de majesté et sainte force. Le verset 2, quelle est l'image au verset 2? C'est l'image d'une chaise. C'est la chaise d'un roi, son temple. Qui communique quoi? L'autorité. Et si c'est un roi important, ce n'est pas une chaise comme de l'autre. Fait en plastique. C'est fait de pierres précieuses. Souvent, c'est couvert d'or et qui est élevé, comme le trône de Salomon. Parce que ça communique, moi, je remplis une poste très importante. Ça communique sa majesté, sa puissance. Et au verset 3, on a je pense qu'on a une autre image. Et j'ai mis C1 et C2 parce qu'il y a deux interprétations différentes. D'accord? C1, j'ai mis les fleuves élèvent leur voix. Et on peut le lier avec Genèse chapitre 1 et Exode chapitre 15. En Genèse chapitre 1, on commence notre perception du monde. C'est un monde en chaos. Chaotique. Et c'est comme les eaux couvrent tout. Et on voit que l'Esprit Saint est au-dessus des eaux. Et c'est le Père qui a le plan. C'est le Fils qui exécute le plan à travers le Saint-Esprit pour créer le monde. Pour rendre le monde moins chaotique. Mais on a aussi le verset Exode chapitre 15, juste après que la nation d'Israël traverse la mer et Dieu il vainque l'armée des Égyptiens. On a le même mot ici en Exode 15. Tu as soufflé de ton haleine, la mer les a couverts. Ils se sont enfoncés comme du plomb dans la profondeur des eaux. Il parle de l'eau qui est élevée, qui a couvert les haleines. Ça peut être un fait historique que le psalmiste veut susciter dans nos idées hein, quand nous lisons. Mais le C2, c'est les nations qui révoltent, qui se révoltent contre l'Éternel. Et comme on voit son Dieu, est-ce que j'ai mis les références? Bon, on n'a pas besoin, vous pouvez le lire plus tard. Donc, et la lettre D au verset 4, on a dans les lieux célestes. Je trouve que ça, c'est une image, hein, je dois penser ici. Le verset 1, revêtu et saint. Le verset 2, ton trône. Et le verset, au verset 3, le C1, ça peut être les fleuves, élèvent leur voix, ça peut parler de la nature, ou ça peut parler aux nations, les peuples. Et la lettre D, au verset 4, dans les lieux célestes, communique le fait que Dieu est élevé, plein d'autorité. Maintenant, ensemble, résumons le message du psaume 93. Si on va résumer, ça doit être plus court que 5 versets. On ne peut pas écrire un résumé qui est 5 versets. Il faut au moins une phrase, peut-être deux phrases. Mais quelles sont les parties? Quelles sont les parties?
Éternel règne.
Éternel règne. Oui.
Au-dessus de la nature.
Au-dessus de la nature. De nature?
De la nature.
De la nature. Bon, ça c'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres idées? C'est comme hier soir, il n'y a pas une seule proposition qui est correcte. Ça, on peut avoir un vingtain de propositions différentes.
On retrouve les attributs de l'omniprésence, de l'omniscience.
Oui, on peut retrouver, on peut dire Dieu est majestueux, éternel, puissant et immuable. Dieu est plus haut que des rois de la terre, oui. Merci.
Qu'il était avant nous, qu'il est maintenant et qu'il sera encore
éternellement. Oui, il est avant nous, il est maintenant et il sera éternellement. Oui, on peut dire la majesté, bon, on peut mettre l'accent sur la majesté. Dieu est plus majestueux de tout, de la nature. Oh, c'est, il y a des mais ce,
comment?
Oui, il ne faut pas oublier l'application. Je pense que ça c'est la section 3. Ouais, elle a raison. J'ai oublié la troisième section. On a cette idée de Dieu règne sur tout. Mais quelle est notre réponse? Quelle est notre réponse?
Pas convaincu.
Mais d'être convaincu dans la vie, ça s'exprime comment?
L'obéissance.
Et l'obéissance dans nos vies est bon. Face aux vagues qui semblent être vraiment, vraiment élevées. Quelle est notre obéissance?
La foi.
La foi. Mais la foi qui persévère, n'est-ce pas? Sois fidèle. Soyez fidèle à Dieu. Parce que, bon, si on est honnête, hein, dans la Bible, si on... Bon, prenez par exemple Job. Sa première réponse était quoi? Je donne, je ôte, béni soit Dieu. Et ça, c'est difficile à dire face aux troubles comme il a eu. Mais à la fin du livre de Job, Job doit être repris un peu. N'est-ce pas? Reproché. Pourquoi? Parce que quand le trouble continue, il devient de plus en plus difficile de répondre en disant Dieu donne, Dieu ôte, béni soit l'Éternel. Et en fait, À la fin, au milieu du livre, Job a dit, moi, où est Dieu? Parce que je veux qu'il donne, il me donne des réponses. Et à la fin, Dieu, il n'a pas donné les réponses, mais il a dit, est-ce que tu sais à qui tu parles? Alors, moi, je ne suis pas mieux que Job. Mais quand le trouble continue, il devient de plus en plus difficile d'être fidèle à Dieu, de marcher par la foi. C'était la même histoire pour Abraham, n'est-ce pas? Abraham, il a été justifié parce qu'il a dit, oui, Père, Dieu, je te crois. J'aurai des descendants comme les étoiles. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a pensé, bon, ça fait des années maintenant, moi, je m'approche à 100 ans. Qu'est-ce que je vais faire? Ma femme, elle n'est pas jeune. Ah, d'accord, je vais avoir un bébé à travers Agar. Quand quand l'épreuve persiste, continue, persévère, c'est difficile pour la foi de persévérer aussi. Et quand les fleuves élèvent, les vagues viennent l'un après l'autre pendant des semaines, pendant des mois, on est tenté de douter de Dieu. Peut-être tous ces témoignages ne sont pas entièrement véritables. On est tenté d'être infidèle et pas fidèle. Voilà. Et aussi, notre réponse est d'être fidèle, mais aussi d'être quoi? Saint. Saint, ça veut dire quoi? D'être saint. C'est quoi un saint?
C'est celui qui ne lève pas les pieds complètement inutiles.
Bon, j'ai pas compris la question.
Celui qui observe les lois de Dieu en respectant les règles.
Oui, quelqu'un qui
respecte
les règles. Et on pense souvent que c'est une personne parfaite, n'est-ce pas? Et surtout quand on pense au milieu catholique, on a des saints, des personnes qui sont parfaites, hein, ils ont fait quelque chose, et maintenant ils sont saints. Mais dans la Bible, le Nouveau Testament, est-ce que vous savez, je sais, vous savez, que les chrétiens à Corinthe, ils ont été appelés des saints. Bon, c'est vrai. Oui. Parce que être saint, c'est être mis à charge. D'être mis à part. On était dans les ténèbres, maintenant on est placé dans la lumière, le royaume du Fils de Dieu. On est mis à part pour Dieu, à Dieu. Mais qu'est-ce qui arrive, hein? J'ai des amis, ils ont eu des problèmes de santé, finances, relationnels. Et vous savez, ils ne se trouvent plus dans une église. Ils ont quitté le christianisme parce qu'ils ont dit quoi? Je vais essayer et ça ne marche pas pour moi. Mais notre réponse au problème ne peut pas être comme ça. Ne peut pas être comme ça. On doit dire quoi? Dieu est élevé. Il est plus élevé que la nature. Des fleuves, de la terre, qui peut être des images pour nos problèmes. Et moi, je dois me rappeler du verset 5. Tes témoignages, les témoignages de Dieu sont entièrement véritables. Sa sainteté convient à sa maison. Et pour moi, la réponse doit être quoi? Être fidèle, rester fidèle, rester saint. Parce que Dieu est plus puissant, plus majestueux que tous les problèmes que je peux trouver dans la vie. Donc, si on doit résumer le psaume, on peut dire le règne de Dieu est plus majestueux que tous les problèmes de la vie. Je dois rester fidèle, je dois être simple en réponse. Voilà, mes amis. Il fait chaud, on est fatigué, mais j'espère que Dieu a utilisé les psaumes pour nous renforcer un peu. Parce que la vie n'est pas facile. Les troubles sont partout. Mais Dieu n'est plus grand. Donc, quand vous pensez aux psaumes, pensez, il n'y a qu'un livre des psaumes qui est divisé en 5 parties. La conclusion dit que toutes les personnes qui respirent sont obligées de louer l'Éternel. L'introduction nous dit que les psaumes sont là pour nous aider à être heureux et sains sous le règne de l'Éternel. Et si on va parler du règne de l'Éternel, on doit constater que même si d'autres personnes ou la nature semblent être hors du contrôle de l'Éternel, en fait, son règne est élevé, majestueux, puissant, immuable et éternel. Et pour moi, ça signifie que je dois être fidèle et saint. Parce que Dieu règne à jamais à travers Jésus-Christ. Prions ensemble. Père Céleste, on peut dire chaque fois, mais c'est vrai que tu es digne d'un enseignement mieux que ça. Ta parole est profonde. Parce que tu es profond. Tu es complexe, tu es Dieu. Mais ce qui est clair, c'est que tu es grand. Tu règnes, que tu es majestueux, puissant, ignorable et éternel. Et pour nous, ça nous permet d'être fidèles et saints, même dans cette vie qui est difficile et remplie de désordres. Aide-nous, Père. Aide chacun ici d'être fidèle. D'être saint, mis à part pour toi, de ne pas chercher l'approbation dans le monde, mais de chercher d'abord l'approbation qui vient de toi, maintenant dans cette vie, mais aussi dans la vie à venir. Que nous puissions être fixés sur la vie éternelle. Amen.
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 Donc, c'est très clair. Je voudrais, je n'ai pas en mémoire, une minute.